Sixième partie. Le huitième étage. Chapitre 145. Jane fonçait vers l'ouest à 180 km/h, en arrosant les véhicules qu'elle dépassait des cascades rouges et bleues de son gyrophare. Elle ne savait pas dans quelle mesure les hommes de la Texas Highway Patrol n'étaient pas censés maintenir un contact régulier avec le central. Pas plus qu'elle ne savait si les mouvements des voitures de patrouille faisaient l'objet d'une surveillance générale par GPS. La moindre erreur pouvait la conduire à sa perte. Quand bien même elle aurait flirté avec les 200 à l'heure, au risque d'une catastrophe si un pneu éclatait, jamais elle n'atteindrait El Paso sans tomber sur un barrage routier, puisqu'il lui restait encore 4 heures de route avant la frontière, même à cette vitesse. Elle aurait pu gagner 1 ou 2 heures en prenant la 285 à hauteur de Stockton, de façon à rejoindre le Nouveau-Mexique en passant au sud de Malaga, mais jamais elle n'aurait assez de carburant. Quitte à s'arrêter dans une station-service, autant se rendre immédiatement. Après avoir parcouru 60 km au volant de la Dodge, elle éteignit la sirène et le gyrophare et ralentit à 100 à l'heure en restant sur la file de droite. Jane avait déjà prévu la suite, mais il lui était impossible de mettre en œuvre son plan le long de l'autoroute, au vu et au su des autres automobilistes. Il n'était pas question que l'on puisse savoir où elle était allée en abandonnant la voiture de patrouille. Un panneau lui signala la présence d'une aire de repos 10 km plus loin. L'essentiel était que l'endroit ne soit pas trop fréquenté. Par un fait du hasard, elle s'apprêtait à emprunter la bretelle de sortie lorsque le conducteur de la Mercedes qui la précédait mit son clignotant. Restait à savoir s'il avait envie d'aller aux toilettes ou bien s'il était nerveux en se sachant suivi par une voiture de patrouille. L'homme semblait seul dans sa voiture et Jane alluma le gyrophare sans actionner la sirène. Au lieu de s'arrêter, il roula sagement jusqu'à l'aire de parking, déserte à 7 heures. 4 réverbères éclairaient l'allée menant au cube de béton abritant les toilettes, mais l'endroit avait tout d'un coupe-gorge. Jane éteignit ses phares tout en laissant clignoter le gyrophare, de façon à imposer son autorité sans permettre au conducteur de la Mercedes de voir qu'elle ne portait pas d'uniforme. Elle s'approcha du véhicule et la vitre avant gauche s'abaissa en ronronnant. Elle montra le badge en étoile, histoire d'occuper son attention, et pointa le canon de son Colt 45 en direction du conducteur. « Descendez !» L'homme, le crâne partiellement dégarni, devait approcher des 80 ans, et les plis de son visage lui donnaient l'allure d'un clown fatigué. « Vous n'êtes pas de la police, » dit-il. « Je ne suis pas non plus très patiente. Descendez !» Elle s'écarta en tenant son colt à 2 mains. Dans un monde où le progrès s'appliquait à gommer systématiquement les leçons du passé, les gens les plus improbables étaient capables d'actes inattendus. En le voyant sortir de la Mercedes, Jane constata que l'homme devait mesurer 1,70 m pour 65 kg. Il était habillé d'un pantalon de toile gris, d'une chemise hawaïenne et de baskets noires et blancs. Avec son bracelet en perles de couleur, il avait tout d'un comptable de Brooklyn en retraite. « Avez-vous décidé de me tuer ?» s'enquit-il sans s'émouvoir outre mesure. « Ce n'était pas mon intention, » répondit Jane, qui n'aurait pas aimé le voir s'écrouler victime d'une crise cardiaque. « J'ai besoin d'un chauffeur. Évitez de jouer au plus malin avec moi si vous ne voulez pas le regretter. » « Je conduis depuis 65 ans et… vous ferez l'affaire. J'ai des bagages dans la voiture de patrouille. Mettez-les dans la Mercedes et grouillez-vous. » « Vous n'avez qu'à vous en occuper. En rangeant mon arme, peut-être ? Allez, plus vite que ça !» Il récupéra la première valise sur la banquette arrière. « C'est que c'est lourd, ce machin-là » dit-il en marchant en crabe jusqu'à sa voiture, comme s'il traînait une tonne de plomb. « Le coffre est déjà plein avec mes valises. Où voulez-vous que je dépose celle-ci ? À l'arrière ? Dépêchez-vous un peu. » Il répéta l'opération avec la seconde valise sous le gyrophare et coupait le moteur. Elle prit le cabas sur le siège passager et le porta jusqu'à la Mercedes. Puis elle rengaina son pistolet. « Cachez-vous une arme à l'intérieur de votre voiture ? Inutile de me mentir, vous pourriez le regretter. »«
J'ai un coussin pour la prostate. »«
Comment ? Un coussin en mousse troué au centre. Je ne vois pas le rapport avec une arme. Je pourrais vous le passer autour du cou et vous étrangler avec. Vous déconnez ou quoi ? Plus autant qu'autrefois. Elle dégaina à nouveau le colt, tout en ayant conscience d'être ridicule. Allez, mon vieux, montez et que ça saute. Il s'installa derrière le volant, assis sur son coussin troué, et Jane prit place à côté de lui en le tenant en respect. Il alluma les phares. « Puis-je savoir où nous allons ?»« On retourne sur l'I-10 en direction de l'ouest. » Il démarra et prit la bretelle jusqu'à l'autoroute. « Je ne cherche pas à vous donner des idées, mais pourquoi vous être encombré de moi au lieu de prendre tranquillement ma voiture ?»«
Pour me servir de chauffeur et de couverture. Les flics sont à la recherche d'une femme seule. Si jamais on se fait contrôler, je suis votre fille. »
« Quel âge avez-vous ? 20 ans ?
Quelle importance ?
J'ai 81 ans. Autant dire que vous êtes ma petite fille. »
« Très bien. »
« Comment vous appelez-vous ?
Ne vous inquiétez pas de ça. »
« Si un agent me pose la question, je ne connais pas le prénom de ma petite fille ?
Vous avez raison. Je m'appelle Alice. »
Voyant qu'il roulait sur l'autoroute, 10 kilomètres en dessous de la vitesse autorisée, elle lui ordonna d'accélérer. « Qu'est-il arrivé à l'agent dont vous avez pris la voiture ?»«
Je ne l'ai pas tué, si vous voulez tout savoir. »
« De la part d'une aussi jolie fille, ça m'aurait étonné. » »«
Vous essayez de me draguer à présent ?»«
Je vous trouve bien nerveuse. Je ne drague plus personne depuis 60 ans. Où allons-nous ?»«
Au Nouveau-Mexique. En passant par El Paso.
C'est ma route. Je vais à Scottsdale.
Alors vous n'aurez qu'à me conduire jusqu'à Nogales.
C'est trop pour moi. Vous allez devoir me relayer.
Vous ne voulez pas que je vous confie mon pistolet tant que vous y êtes ? Surveillez plutôt le compteur.
Il laissa s'écouler un court silence avant de se présenter. Je m'appelle Bernard Rigovitz. Vous n'avez qu'à m'appeler Papy Bernie.
Elle laissa échapper un soupir. Je sens que cette histoire va mal se terminer.
Les pensées négatives débouchent sur des résultats négatifs, répliqua-t-il.
D'un coup d'œil, elle vit que l'aiguille de la jauge indiquait les 3/4.
Sans doute avait-il fait le plein à Junction. Ils avaient de quoi aller à Fort Stockton sans problème. Peut-être même Van Horn, avant de remplir le réservoir et d'arriver au Nouveau-Mexique.
Comment se fait-il que vous couriez les routes tout seul à votre âge en pleine nuit ?
Je préfère rouler de nuit, ça me délasse. Depuis la mort de Myriam, je suis tout seul. On a convolé à 19 ans et on est resté mariés 61 ans ensemble, sans un seul jour de séparation.
Et merde, réagit Jane.
Vous ne me croyez pas ? C'est pourtant vrai. Tous les jours que Dieu fait, jusqu'à l'an dernier.
Je vous crois, se défendit Jane. Mais c'est bien ma chance de tomber sur un veuf de 81 ans le jour où je décide de braquer une voiture.
Ne vous inquiétez pas pour ça, Alice. Vous allez me trouver ridicule, mais vous mettez un peu de piment dans une année bien grise.
Sauf que je risque de vous entraîner dans la mort. Ce dont je n'ai aucune envie.
Les pensées négatives débouchent sur des résultats négatifs, lui rappela-t-il.